Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Crozat et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 et on se retrouve donc pour cette deuxième émission consacrée au cours WE01 de l'UTC, Questionner le web, dont le contenu, d'ailleurs vous pourrez retrouver le contenu des cours sur librecours.net. Pour cette deuxième émission, on est en studio avec deux étudiants, Guillaume et Antonin, je ne me trompe pas, bonjour à vous.
Bonjour, salut.
Si, je me suis trompé.
C'est Antoine.
Antoine, pardon. Désolé. Et du coup, bah voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de monde en studio et c'est le moment de restituer le résultat de vos travaux de recherche du semestre où vous avez notamment étudié plusieurs articles type scientifique, investigation. Vous avez résumé des concepts vus en cours et puis enfin, vous avez proposé des articulations originales entre articles et concepts. Et bah voilà, du coup, c'est à vous. Allez-y.
Bonjour à tous. Lors de cette émission, nous allons vous présenter le chapitre 2 de l'ouvrage La machine YouTube, le concept de publicité programmatique et enfin une mise en relation entre la publicité et les créateurs de contenu sur les plateformes numériques. Franck Rébillard est un enseignant chercheur membre de l'université Sorbonne Nouvelle. Il enseigne notamment la socio-économie des médias et de l'Internet et la sociologie du journalisme et des rapports médias-politiques. Yvette Asselimeou-Kounz est docteur en psychologie sociale et maîtresse de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris. Le chapitre 2 de l'ouvrage La machine YouTube s'ouvre avec la présentation de YouTube et des liens avec Google et la maison mère Alphabet. L'auteur critique la vision utopique et pseudo-égalitaire d'Alphabet concernant l'impact bénéfique du numérique et son auto-qualification d'entreprise non conventionnelle. Au vu de ses stratégies d'optimisation fiscale, le groupe a tout d'une multinationale conventionnelle. Comme l'affirme l'auteur, la devise « Don't be evil » de Google mérite ainsi d'être mise à distance. Ici, l'auteur ironise sur le fait que Google est devenue l'entreprise qu'elle critiquait auparavant. Pour montrer l'ampleur du groupe Alphabet, l'auteur compare les revenus publicitaires du groupe de Google et YouTube à ceux du groupe TF1. Alphabet est comparable à ses entreprises sœurs des GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, plutôt qu'aux médias traditionnels, de par ses revenus colossaux, 50 fois supérieurs à ceux du groupe TF1. Les GAFA tirent une grande partie de leur puissance économique des effets de réseau, un mécanisme selon lequel la valeur d'un service augmente avec le nombre d'utilisateurs, ce qui la rend indispensable. L'auteur traduit cela par un sentiment de « winner takes all », typique du numérique. Cette dynamique réduit les coûts marginaux, accroît la rentabilité et permet aux géants du digital de réinvestir massivement dans l'innovation, consolidant encore leur domination. Basé à 80% sur les revenus publicitaires, le chiffre d'affaires de YouTube ne cesse d'augmenter. La plateforme se veut être un organisme de rassemblement des internautes, des vidéastes et des annonceurs. L'effet de réseau créé par YouTube repose sur la quantité importante de vidéos disponibles. D'après l'auteur, un effet de réseau indirect se manifeste par la possibilité de communiquer avec d'autres utilisateurs, notamment via les commentaires. Il montre également la présence d'un effet de réseau croisé, reposant sur le fait que les vidéastes produisent sur YouTube pour interagir avec des annonceurs et des internautes, tandis que les annonceurs atteignent un grand nombre d'internautes. Afin de maintenir sa source de revenus principale, l'auteur affirme que YouTube a adopté une politique tournée davantage vers les annonceurs et les entreprises de médias, notamment avec des mesures de protection des marques, qui consistent à seulement proposer de la publicité sur les vidéos à caractère sérieux, c'est-à-dire avec un nombre minimal d'abonnés, nombre minimal d'heures de visionnage et une fréquence de publication importante. Ainsi, les grands perdants sont les vidéastes amateurs, et ceux basant leur contenu sur des ressources protégées par les droits d'auteur. Le dispositif de YouTube Content ID, qui gère et vérifie les droits d'auteur de YouTube, ne fait pas la différence entre le plagiat et la citation. Enfin, les vidéastes amateurs se voient privés du financement publicitaire à cause d'une audience trop faible qui n'intéresse pas les annonceurs. Ils doivent se tourner vers d'autres financements, partenariats commerciaux, financement par les internautes ou soutien public. La puissance économique des GAFA repose sur des mécanismes de captation d'audience massifs. Mais comment cette audience est-elle concrètement exploitée pour gérer des revenus colossaux? C'est alors qu'intervient le concept fondamental de notre travail, la publicité programmatique.
La publicité programmatique est un mode d'achat et de diffusion d'espaces publicitaires qui s'appuie sur l'analyse automatisée des données des utilisateurs. Contrairement à la publicité traditionnelle, Cette approche vise à adapter le message publicitaire à chaque individu en temps réel et de manière dynamique. C'est un processus automatisé qui ne dépend plus d'une simple segmentation, mais d'une évaluation instantanée de la probabilité qu'un utilisateur interagisse avec l'annonce. La diffusion ne se fait donc plus uniquement en fonction du support, mais avant tout selon les informations associées à l'utilisateur. Son comportement en ligne, ses intérêts ou son historique de navigation sont utilisés pour personnaliser les annonces. Cette logique permet un ciblage plus précis et surtout plus réactif. Le principe repose sur un système d'enchères, où différents annonceurs tentent d'obtenir un emplacement publicitaire. Pour visualiser, imaginez le petit encart rectangulaire où s'affiche une publicité sur un site web, juste à côté du contenu principal. Chaque espace est décrit par des métadonnées, URL, langue ou thème, auxquelles s'ajoutent des données sur l'utilisateur qui consulte le site. Plusieurs algorithmes analysent ces éléments en quelques millisecondes et évaluent la probabilité qu'une annonce soit pertinente. L'espace est finalement attribué à l'annonceur dont l'offre, le prix qu'il est prêt à payer et la pertinence estimée de la publicité donnent le meilleur score. Par exemple, imaginons un internaute qui fait des recherches pour acheter un casque audio. Les plateformes qu'il utilise, moteurs de recherche, réseaux sociaux ou sites marchands, collectent des informations sur ses actions. Ces données peuvent être récoltées directement par la plateforme, achetées à des data brokers ou encore fournies par les annonceurs eux-mêmes. Quand cet internaute arrive ensuite sur YouTube ou Instagram, ces plateformes savent qu'il s'intéresse à ce type de produit. Mais l'enchère est plus complexe. Une marque de casque audio et une campagne de sensibilisation gouvernementale, par exemple pour la sécurité routière, peuvent être mises en concurrence simultanément. La décision de diffusion ne dépend pas uniquement du produit, mais d'un ensemble complexe de facteurs, le profil et le comportement en ligne de l'utilisateur, l'offre de prix et les budgets investis par l'annonceur. L'algorithme choisit automatiquement l'annonce jugée la plus performante en s'appuyant sur toutes les données décrites. Il faut aussi savoir que l'annonceur ne paye que si la publicité génère l'interaction attendue, comme un clic. Nous voyons donc que la publicité programmatique est un système sophistiqué et automatisé. La question est désormais de savoir ce qui se passe lorsque ce mécanisme, centré sur l'annonceur, rencontre les effets de réseau qui rendent la plateforme YouTube indispensable aux créateurs. Comme défini précédemment, un effet de réseau est un phénomène par lequel l'utilité réelle d'une technique ou d'un produit dépend du nombre de ses utilisateurs. Ils sont présents dans toutes les facettes de la société. Par exemple, le téléphone représente un effet de réseau, puisque son indispensabilité augmente avec le nombre de personnes qui en possèdent un. Ou encore l'anglais représente un effet de réseau, car cette langue est indispensable au vu de la quantité de personnes qui l'utilisent. Différents effets de réseau sont présents sur les plateformes numériques, notamment sur YouTube. Ces effets ont pour conséquence de lier intrinsèquement les créateurs de contenu, les internautes et les annonceurs. Dans le cas de YouTube, il devient quasiment impossible pour un créateur de contenu de quitter la plateforme. Ainsi, les vidéastes dépendent de YouTube et notamment de la publicité présente sur la plateforme pour générer des revenus. Cette dépendance économique place les créateurs dans une position de fragilité face aux exigences des annonceurs, imposées au nom de la protection des marques. En effet, les marques financent l'écosystème, mais refusent d'associer leur image à des contenus qui divisent les opinions, sont vulgaires ou sont trop politiquement instables. Pour garantir cet environnement sécurisé aux annonceurs, la plateforme déploie des algorithmes capables de détecter et de priver de revenus toute vidéo s'écartant des normes publicitaires. Le créateur se retrouve alors face à un choix difficile. Garder une liberté d'expression totale au prix de sa survie économique ou se plier aux règles du marché.
C'est ici que l'effet de réseau se transforme en piège pour la liberté d'expression, puisque les vidéastes ne peuvent pas quitter la plateforme sans perdre leur audience. Ils finissent par intégrer les contraintes de l'algorithme avant même la création de leur contenu. Cette autocensure, qui est moins visible qu'une interdiction formelle, mène à un lissage progressif du discours et à une uniformisation de la pensée. Pour survivre, il faut plaire aux annonceurs. Ainsi, même si en théorie la liberté de parole existe toujours, elle est en réalité limitée par l'argent. YouTube, comme les autres plateformes numériques, devient alors une vitrine sans risque, où les vrais débats disparaissent au profit du divertissement grand public. Se pose ainsi la question de comment les créateurs de contenu peuvent être rémunérés autrement qu'à travers la publicité. Est-ce que trouver un autre modèle économique est la seule façon de fuir cet effet de réseau qui restreint leur liberté d'expression ? Des solutions existent déjà, comme le financement participatif ou les abonnements directs, par exemple via des plateformes comme Patreon. Merci de nous avoir écoutés. La musique que vous allez écouter se nomme First Morning et a été composée par V. Elle est disponible sur Zik Libre en Bib sous la licence CC BY NC.
Et pour finir cette émission, du coup, on va poser une question de Herman qui vous demande quelles sont les différences entre publicité programmatique et publicité ciblée. Parce que programmatique, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup moins souvent.
Alors, la publicité ciblée, c'est un peu la publicité classique qu'on peut avoir à la télé. Par exemple, sur une chaîne d'enfants qui va faire une publicité sur des jouets, c'est une segmentation de la population qui est en train de voir la publicité. Et une publicité programmatique, c'est vraiment l'aspect prise de décision en direct. C'est un algorithme qui va choisir en fonction des données de l'utilisateur, de l'argent qu'ont mis les annonceurs et du contexte de la page web ou du site où il se trouve pour afficher une publicité qui aura le plus de chances de créer une interaction.
Eh bien, merci beaucoup pour votre réponse et pour votre travail. On se retrouve dans 5-10 minutes pour la dernière émission de cet après-midi. Et puis après, ce sera mercredi prochain. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions d'ici une ou deux semaines sur tube.picassoft.net. Merci pour votre écoute et à tout à l'heure.